Un momentum, ça veut dire le moment où toutes les choses basculent et il s'ensuit une cascade de choses, un élan, un mouvement qui prend place et qui nous amène dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Et je crois vraiment qu'avec Dieu, et je crois que ce matin, ça peut être un momentum pour plusieurs. Je crois qu'avec Dieu, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Il dit et la chose arrive. Un Dieu qui, quand même, ce verset, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Je crois que ce Dieu-là est capable de nous faire vivre des momentums. Il est capable d'amener des basculements dans notre vie. Peut-être ce matin, vous êtes venu dans ce lieu avec des situations bloquées. Et ma prière pour vous, c'est qu'il y a un momentum, que les choses se débloquent dans le nom de Jésus. Qu'il y ait des guérisons, des restaurations, qu'il y ait sa grâce qui se manifeste dans chacune de nos vies. Est-ce que vous le voulez et est-ce que vous le croyez? Croyez-vous que Dieu soit capable de faire des choses extraordinaires dans votre vie? Vous le pensez? Peut-être qu'il y a une personne malade et croyez-vous que peut-être que vous avez reçu les résultats, les analyses comme quoi il y a une maladie qui est grave et vous êtes complètement dépité. Croyez-vous que cette semaine, le médecin peut vous téléphoner en disant « on ne sait pas ce qui est arrivé, mais on vient de recevoir vos analyses et tout a disparu ». Croyez-vous que Dieu soit capable de faire ça? Croyez-vous que, alors peut-être que vous recherchez un travail depuis longtemps et que vous avez envoyé des lettres de motivation dans toute la région, dans les alentours, au coin et plus encore, et que vous avez l'impression, ça fait des mois et des mois, c'est le chômage, c'est dur, c'est difficile. Croyez-vous que dans la semaine qui arrive, il y a quelqu'un qui vous téléphone en disant, nous avons bien reçu votre lettre, votre profil nous intéresse et nous aimerions faire un essai avec vous. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de faire ça? Croyez-vous peut-être alors que vous recherchez un appartement et que c'est compliqué, que vous avez du mal, ah, j'arrive pas à avoir mon appartement, ça fait des mois, j'ai donné mon dossier, puis j'ai l'impression que mon dossier est en bas de la pile. Croyez-vous que cette semaine, votre dossier peut passer numéro un dans la pile et qu'on vous appelle en disant, monsieur, madame, j'ai un appartement, une maison pour vous. Est-ce que vous le croyez? Que tous ceux qui le croient applaudissent le roi des rois alors. Alors maintenant, j'ai une autre question. Si vous le croyez et que Dieu le fait, voici mon autre question. Seriez-vous surpris s'il le faisait? Seriez-vous surpris? Il y en a qui disent non, puis il y en a qui disent oui. Moi, je crois, en tout cas, moi, je parle, ça n'engage que moi, là. Moi, souvent, quand je prie et que Dieu donne la réponse à la chose pour laquelle j'ai prié, je dois me confesser, je suis surpris. T'as envie de dire, mais t'as prié quand même pour ça, pourquoi t'es surpris? Ben, ça me surprend à chaque fois. Je me dis, Seigneur, et vous savez quoi? En plus, je prie régulièrement pour que Dieu me surprenne. J'aime être surpris par Dieu, pas vous? Et vous savez, il y a un passage dans la parole de Dieu, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ce passage, mais je le trouve tellement incroyable. À un moment donné, il y a un homme qui, l'apôtre Pierre, vous connaissez, il va être arrêté. Et juste avant, ils avaient arrêté Jacques, un autre apôtre, et la Bible nous dit, ça s'est mal terminé, la Bible nous dit que Jacques a été tué par l'épée. Et là, vous imaginez l'équipe pastorale, il y en a un qui se fait tuer, c'est waouh, ça met vraiment le trouble, hein, au milieu de l'église, au milieu de l'équipe pastorale. Et là, à un moment donné, les mêmes qui ont fait mourir Jacques prennent l'apôtre Pierre et il l'amène en prison. Imaginez un peu le stress dans l'église. Vous comprenez? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aussi encore tuer un de nos pasteurs, ils vont encore tuer un de nos apôtres et comment ça va se passer? Et certainement que là ils étaient inquiets et la Bible nous dit qu'ils se sont réunis dans les maisons et ils se sont mis à prier. Et ils priaient. Et à votre avis, ils priaient quoi? Ils priaient pour que Dieu libère Pierre. Et ils étaient là dans leur petit salon, « Seigneur, libère Pierre !» Et la Bible nous dit que l'Église ne cessait de faire monter jusqu'à Dieu, jusque devant le trône de Dieu, des prières à Dieu pour la libération de Pierre. Et alors que l'Église priait, « Seigneur, libère-le, Seigneur, libère-le !» J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin, Dieu entend nos prières. Et Dieu envoyait un ange. Et Dieu envoyait un ange là où il y avait Pierre, et Pierre était dans une prison, et il avait les fers aux pieds, il était attaché, et il y avait 4 escouades de soldats autour de lui, c'est-à-dire 16 soldats autour de lui, vous avez vraiment peur qu'il s'échappe le gars, et là 16 autour de lui, et là la Bible nous dit qu'ils se sont tous assoupis, waouh, Dieu peut faire dormir nos ennemis, ils sont tous assoupis. Et là, la Bible dit que les fers sont tombés au pied de Pierre et tout ça s'est tombé. Et là, l'ange a dit à Pierre, suis-moi. Et Pierre a commencé à suivre l'ange à travers la prison. Et à un moment donné, il se retrouve devant une porte de fer. Et la Bible dit que les portes de fer se sont ouvertes. Waouh ! J'aime quand Dieu ouvre les portes de fer. Et les portes s'ouvrent et Pierre sort. Waouh ! Et à votre avis, qu'est-ce que fait Pierre ? Pierre, littéralement, eh ben, il va voir ceux qui sont en train de prier pour lui. Il sait que là, il y a des gens qui sont en train de prier pour lui dans une maison, la maison d'Hérode, il y va. Et alors qu'il arrive, la Bible nous dit, il commence à frapper à la porte. Il toque, 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 toque. Et là, il y a la servante qui arrive. Les autres sont dans le salon, certainement, en train de prier. Seigneur, libère-le, libère-le. Et là, la servante, elle arrive. Et elle dit, oui, qui est-ce? Et là, il y a Pierre qui dit, c'est moi, c'est Pierre. Et la Bible nous dit que, en fait, ça l'a tellement surpris, elle a oublié d'ouvrir la porte, elle est partie le dire aux autres. C'était tellement surprenant qu'elle était le dire aux autres. Et là, quand elle est arrivée, voir les autres... Bon, on va le lire ensemble, je l'ai mis en diapo, s'il te plaît, si tu peux mettre le diapo. Il frappa à la porte, donc c'est Pierre, du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte, Bichette. Ils lui dirent, tu es folle. Waouh ! Les gars, ils sont en train de prier pour libérer Pierre, hein ? Et quand on lui dit, il est là, il dit, mais ça va pas ta tête, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi, et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper, le gars, il n'en pouvait plus. Hein. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Croyez-vous que Dieu soit capable de vous surprendre? C'est l'église primitive qui vive miracle sur miracle, et quand Dieu répond à une prière, les gens, ils sont surpris, quoi. Eh, il est là, mais ça va pas, t'as un problème ou quoi? Si, si, il est là, le gars, il est derrière, il frappe, et ils sont surpris, ils sont étonnés. Littéralement, ils ont dû le voir, ils disent, qu'est-ce que tu fais là? Surprise, Dieu répond aux prières. Comprenez-vous? Et je crois que notre Dieu est surprenant. Et je crois que ce matin, Dieu peut surprendre plusieurs personnes dans ce lieu afin de vous amener dans la destinée qu'il a prévue pour vous. Et peu importe là où vous en êtes aujourd'hui, Dieu n'en a pas fini avec vous. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu n'en a pas fini avec toi. Dis-lui, Dieu n'en a pas fini avec toi. Il y a encore plein de belles choses avec toi. Alors c'est le titre de mon message ce matin. Dieu est surprenant. Il est capable de faire des choses là où les hommes n'ont rien vu. Il est capable de nous surprendre, il est capable de nous étonner, il est capable de faire des choses littéralement paradoxales, des choses que tu as du mal à imaginer les deux choses ensemble, mais Dieu est capable de le faire. J'aimerais, dans ce premier point, juste vous partager une pensée qui, à mon cœur, est tellement forte et tellement encourageante. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il y a un homme qui s'appelle Kish. Vous connaissez Kish ? Non, vous connaissez pas trop Kish. Et Kish, c'est un homme qui a perdu des ânesses. En fait, c'est le papa d'un célèbre homme. Et Kish a perdu des ânesses. Il faut comprendre que à cette époque-là, les ânesses, les ânes, c'était littéralement, c'était quelque chose d'important. C'était ton moyen de locomotion. C'est comme si aujourd'hui tu perdais ta voiture. Et c'est pas juste ta voiture, c'était également l'animal avec lequel tu travaillais. C'est-à-dire non seulement tu perdais ton moyen de transport, mais tu perdais également tes outils de travail. C'est-à-dire que c'est comme la petite camionnette pour ceux qui font toutes sortes, ou le tracteur pour un agriculteur, vous comprenez? Donc c'est quelque chose d'important. Et lorsqu'il perd ses ânesses, il est dans le trouble. Et là, il va voir son serviteur et il va voir son fils. Et son fils, c'est la première fois qu'on entend parler de lui. Ça va être le premier roi d'Israël, jeune homme Saül. Et là, il va voir Saül, il va voir son serviteur et dire, voilà, il y a un drame, on vient de perdre nos ânesses. Cherchez-les, allez les trouver, essayez de les trouver où elles sont. Et là, la Bible nous dit que Saül avec le serviteur vont commencer. Et pendant plusieurs jours, ils vont parcourir différents territoires et ils recherchent les ânesses. Et à un moment donné, au bout de 3 jours, Saül dit au serviteur, bon, faut se rendre à l'évidence, c'est terminé. On a perdu. C'est fini, ça fait des jours et des jours, on va pas les retrouver, c'est terminé maintenant. Et là, le serviteur a une pensée. Le serviteur dit, tu sais, on est à côté d'une petite ville, là, et dans cette ville, il y a un homme de Dieu. Il y a un prophète qui s'appelle Samuel. Littéralement, c'est un homme qui arrive à voir des choses juste, il va être capable. Je pense que si on va le voir, peut-être, et puis on n'a rien à perdre. Allons le voir, peut-être il va être capable ou pas, mais peut-être il sera capable, lui, de nous dire où sont les ânesses. Et là, la Bible nous dit que, Saül et son serviteur vont arriver dans ce village, vont rechercher Samuel, et à un moment donné, lorsqu'ils vont se retrouver devant Samuel, Samuel va commencer à discuter avec eux, et puis, qu'est-ce que vous voulez, les gars? Et là, il dit, bah voilà, on a perdu les ânes. T'as pas quelque chose à nous dire par rapport à ça? Et voici ce que va dire Samuel. Écoutez bien. Ne t'inquiète pas de tes ânes perdues. Il y a aujourd'hui 3 jours qu'elles ont été retrouvées. Ne t'inquiète pas de ce que tu as perdu. Alors que lui était inquiet, Samuel le rassure. Alors lui, ça fait 3 jours qu'il est à gauche, à droite. Et la réalité, ça fait 3 jours déjà qu'elles ont été retrouvées, les ânes. J'aimerais vous partager cette notion que Dieu nous surprend en façonnant notre histoire. Est-ce que vous croyez que Dieu soit capable de façonner votre histoire? Au-delà de ce que vous perdez. Moi, je crois que Dieu est capable de le faire. Vous avez des questions ce matin? J'ai une bonne nouvelle. Dieu a des réponses. Nous venons avec nos questions. Où sont mes ânes? Où est-ce que j'ai perdu? J'avais des choses dans ma vie, pasteur. J'avais des choses dans ma vie, Seigneur. Et je les ai perdues. Je ne sais pas où elles sont. On arrive parfois avec nos questions. Et la chose qui est puissante, c'est que face à nos questions, Dieu a des réponses. Il est omniscient. Vous savez ce que ça veut dire, il est omniscient? Vous savez ce que ça veut dire, omniscient? Il y en a, dites-moi. La connaissance de tout? En fait, si je devais donner la définition la plus complète de ce qu'est omniscient, ça veut dire que si Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il a une connaissance parfaite du passé, du présent et de l'avenir. Rien ne lui est caché. Alors nous, parfois, nous sommes là et on ne comprend pas ce que nous sommes en train de vivre dans notre présent et on ne comprend pas encore notre avenir, notre futur. Mais Dieu est omniscient et il nous dit, quelle que soit ta situation actuelle, ne t'inquiète pas de ce que tu as perdu. Peut-être il y a des gens ici, vous avez perdu des choses importantes dans vos vies. Peut-être vous avez perdu un mari. Peut-être vous avez perdu une épouse. Peut-être vous avez perdu un enfant qui a claqué la porte de la maison. Et aujourd'hui, ça vous fait pleurer. Je comprends pas pourquoi j'ai perdu ça. Peut-être certains, vous avez perdu des choses importantes dans votre vie. Ça peut être une carrière professionnelle. Et vous savez, quand nous perdons quelque chose, un des synonymes du mot perdre, c'est la défaite. Quand on perd, on se retrouve dans un état d'esprit de défaite. D'un seul coup, les bras sont lourds, les bras nous tombent, et puis on marche dans la vie avec lourdeur, et j'ai perdu, je suis dans la défaite aujourd'hui, c'est compliqué, j'avais des choses qui autrefois réjouissaient mon cœur, mais j'ai perdu ces choses-là. J'aimerais te dire ce que Samuel a dit à Saül, j'aimerais te le dire à toi aussi, ne t'inquiète pas de ce que tu as perdu. Tu as perdu une maison, tu as perdu une voiture, tu as perdu une position sociale. Dieu te dit, ne t'inquiète pas de ce que tu as perdu. Qu'on se comprenne bien, ce n'est pas que Dieu se réjouit de ce que nous avons perdu. C'est pas que Dieu voulait que vous perdiez ce que vous avez perdu. Mais Dieu, comprenez ceci, Dieu n'est pas limité par ce que nous perdons. Et même quand nous perdons des choses importantes dans notre vie, Dieu est encore capable de travailler, de façonner le cours de notre histoire pour nous amener dans la destinée qu'il a prévue pour nous. Comprenez-vous? Parce qu'il y a cette pensée que Dieu voit au-delà de ce que moi, je suis capable de voir. Quand Saül a été voir Samuel, en fait, Samuel n'était pas surpris. Parce que Dieu est surprenant envers nous, mais Dieu, on ne peut pas le surprendre. Il est omniscient. Et Dieu avait prévenu Samuel. Il lui avait dit 24 heures auparavant, c'est comme dans les films, hein, 24 heures plus tôt, alors que Saül court à gauche et à droite pour trouver ce qu'il a perdu, 24 heures plus tôt, Dieu avait parlé à Samuel. Et voici ce qu'il avait dit à Samuel. Dieu dit, demain à cette heure-ci, donc c'est vraiment 24 heures auparavant, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Et tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le conducteur, pour qu'il devienne le roi de mon peuple d'Israël. Waouh ! Comprenez-vous ceci ? Saül est en train de rechercher ce qu'il a perdu. Et Dieu va, écoute, comprenez bien la pensée. Et Dieu va utiliser ce qu'il a perdu pour le faire sortir de sa barque, pour le faire sortir de sa zone de confort, afin de l'amener devant le prophète Samuel, afin que Samuel lui donne une onction pour qu'il devienne le roi. Comprenez-vous? Alors que lui recherche ses ânes, Dieu est en train de utiliser les circonstances pour lui donner une onction pour devenir le roi. Une onction royale. Et j'aimerais vous encourager en vous disant, au-delà de ce que vous avez perdu, mes bien-aimés, Dieu est capable de travailler dans le cours de votre histoire afin de vous donner une nouvelle onction, afin que vous puissiez repartir et aller de l'avant parce que Dieu n'en a pas fini avec nous. Est-ce que vous le croyez? Et Dieu est capable de faire des choses tellement magnifiques, tellement incroyables. Dieu ne se réjouit pas de nos pertes. Dieu ne se réjouit pas de nos pères. Dieu ne se réjouit pas que Saül a perdu ses ânesses. Comme Dieu ne se réjouit pas, mon bien-aimé, de ce que tu as perdu. Mais Dieu est capable d'utiliser ce que tu as perdu pour t'amener dans une position où tu vas recevoir une nouvelle onction fraîche pour aller de l'avant et accomplir la destinée que Dieu a pour toi. Il y a cette notion de « je vais de l'avant ». Je m'adresse aujourd'hui dans ce lieu à tous ceux qui ont perdu quelque chose. À tous ceux qui pleurent parce que vous avez perdu des choses importantes dans votre vie. Et je vous le dis avec tout mon cœur, avec toutes mes tripes, avec toute ma foi, avec tout l'espoir que je peux vous communiquer. Gardez courage, parce que Dieu n'en a pas fini avec vous. Là où vous voyez la mort, Dieu voit la vie. Là où vous voyez l'échec, Dieu voit le succès. Là où vous voyez la maladie, Dieu peut voir la guérison. Là où vous voyez le péché, Dieu voit littéralement le pardon des péchés. Là où vous voyez l'obscurité, Dieu voit la lumière de l'évangile. Alors je garde espoir et je vais de l'avant parce que je sais que mon Dieu est capable de me surprendre. Toi, tu cherches des ânesses, mais j'ai aujourd'hui une bénédiction meilleure pour toi. Je vais t'élever dans la maison de ton père et tu deviens le roi de la nation. Alors je sais que certains savent que Saül va mal finir, mais c'est pas mon propos ce matin. Mon propos, c'est de voir comment, et parce que malheureusement, après, il a fait des mauvaises actions, des mauvais choix, mais comment Dieu a pris un gars qui était dans la perte et comment Dieu a pu lui donner une nouvelle onction. Dieu est un Dieu de surprise, dans la défaite, dans l'échec, dans la déception. Dieu vient vers Saül, comme Dieu vient vers nous, pour nous donner mieux que ce que nous avions perdu. Il fait de lui un roi. Comprenez-vous ? On doit avoir cette pensée que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Vous savez, le problème souvent que nous avons, c'est que on a les yeux collés sur la feuille de notre vie. On a les yeux collés sur la feuille de notre vie et on est incapable de voir la fin de l'histoire. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu connaît la fin de l'histoire. Vous savez, si je prends une feuille, tiens, donne-moi la feuille que tu as là. Si je prends une feuille, et on pourrait faire l'exemple, hein, tous ensemble. Mais si je prends une feuille, vous voyez, il y a plusieurs choses qui sont écrites. Si je prends la feuille et que je la colle sur mes yeux comme ça, à votre avis, est-ce que je vois quelque chose? Je vois rien. Et en fait, souvent, c'est comme ça que nous vivons. On a les yeux collés sur la feuille de notre vie. On est incapable de voir quoi que ce soit. Mais là, si je recule, petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Je commence à voir. Alors, suivant l'âge que j'ai, je recule plus ou moins loin. Mais au fur et à mesure que je recule, je capte un mot, puis d'un seul coup je capte une phrase, et d'un seul coup je capte l'histoire. On doit comprendre ceci, c'est que Dieu, la pensée de Dieu sont élevées par rapport à nos pensées. Et nous, des moments, on ne comprend rien. Je viens de perdre ça, Seigneur. Je passe par telle galère. Je passe par telle difficulté. Je ne vois pas d'avenir. Je ne vois pas d'espérance. Tout ce que je vois, vous savez que le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Hein. Tout ce que je vois autour de moi, c'est juste chaos. C'est juste des pertes. C'est juste de la défaite. J'aimerais te dire, fais confiance à Dieu. Il est celui qui connaît la fin de l'histoire. Et mais pour rentrer et pour être surpris par Dieu, il y a cette notion et cette pensée que nous devons garder un cœur prêt à être surpris. Est-ce que lorsque vous vous levez le matin, vous êtes blasé de la vie, connaissant tout de « moi je connais tout, je sais tout » ou est-ce que vous avez ce cœur enfantin prêt à être surpris et vivre de nouvelles aventures ? Je disais la dernière fois au leader, quand est-ce la dernière fois que vous avez vécu quelque chose pour la première fois ? Les gens qui aiment être surpris, c'est souvent qu'ils vivent des choses pour la première fois. Parce qu'ils ont ce corps, je veux vivre des aventures. Et j'aimerais voir, deuxièmement, ce matin, c'est pourquoi rester dans l'émerveillement. Si on a un Dieu qui est capable de nous surprendre, attendez-vous à être surpris. Souvent, les problèmes qu'on peut traverser, c'est qu'on a perdu cette attente. On a perdu cette attente d'être surpris. C'est comme on connaît tellement tout, puis moi la Bible je la connais, puis je sais comment Dieu agit, etc. On a tout, c'est inconscient ça. C'est même pas spécialement verbalisé, ça peut être très inconscient, mais c'est comme on a nos schémas de bénédiction. On sait comment Dieu fait, on sait, là il y a le A, là il y a le B, là il y a le C. On sait un petit peu tout ça, comment ça marche. Et si Dieu venait ce matin, mettait un grand coup de pied là-dedans et il dit « je fais ce que je veux ». Je suis Dieu, je règne sur mon trône et je fais ce que je veux. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire ça? La Bible nous dit, il est sur son trône et il fait ce qui lui plaît. Comprenez-vous? Mais si je comprends ceci, au-delà de mes pensées à moi, de mes schémas à moi, et si je garde, et si je reste avec un corps qui est capable de rester dans l'émerveillement, Dieu peut venir et agir avec puissance. Regardez ce que Jésus a dit. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Vous savez, souvent, quand on parle de ce passage-là, on dit cette chose qui est très vraie, c'est qu'il faut avoir la foi d'un petit enfant. Parce que la foi d'un petit enfant, vraiment, on pense que voilà, ce passage-là, c'est vraiment la notion d'un enfant, d'avoir la foi d'un enfant. Parce que c'est vrai, un enfant, est-ce que vous avez remarqué, a une foi incroyable. Vous voyez, par exemple, si moi je suis le papa, j'ai mon petit enfant qui est là, et je lui dis, allez, vas-y, saute mon garçon. Qu'est-ce que le petit garçon fait? Il saute. Il se dit pas dans sa tête, wow, attends 2 secondes. Ça se trouve, j'ai sauté, puis à la dernière seconde, mon père, il va faire, holé! Comprenez? Un enfant ne se dit pas ça. Il croit, il saute. Donc, il y a vraiment cette notion de foi, je le crois vraiment dans ce passage. Mais je crois également qu'il y a autre chose. Je crois que un enfant est caractérisé par l'émerveillement. J'ai une théorie de pourquoi les enfants courent tout le temps. Est-ce que vous avez remarqué que les enfants, dès qu'ils apprennent à marcher, les 2-3 premières années de leur vie font que courir? Ils savent pas se déplacer en marchant. Moi, j'avais ma deuxième, Colline, je l'appelais le ventilateur dans la maison. Et quand t'avais chaud, elle courait tellement qu'elle te faisait de l'air, elle brassait l'air. C'était incroyable. Un enfant ne sait pas se déplacer en marchant. Vous savez pourquoi? Ma théorie est la suivante. Ça n'engage que moi, bien sûr. Mais j'ai une théorie, j'ai eu 3 enfants et j'ai eu cette théorie. C'est que, en fait, un enfant est toujours pressé de vivre de nouvelles aventures. Le matin, il se lève, il est pressé. Waouh, génial! Ça va être quoi aujourd'hui, les céréales que je vais manger? Ensuite, il court dans sa chambre et il va déballer ses jouets. Waouh, on va jouer à quoi aujourd'hui? Ensuite, il court dehors, jouer avec les amis. Il est toujours en train de vivre de nouvelles expériences. Est-ce que vous avez remarqué? Il est toujours surpris, un enfant. Le cœur d'un enfant est toujours dans la surprise. C'est incroyable. La dernière fois, j'étais chez quelqu'un et il avait un bocal avec un poisson rouge. Moi, ma capacité d'émerveillement devant un bocal, devant un poisson rouge, est à peu près de 3 secondes. Je regarde le poisson rouge, c'est bon, quoi. Et là, il y a une petite fille qui arrive. C'est pas une blague, une petite fille qui arrive, qui doit avoir 2-3 ans, et elle est restée au moins 1/4 d'heure devant le poisson rouge. Elle était émerveillée. J'étais émerveillé de l'avoir émerveillée. C'est ça, un enfant. Un enfant, moi, tu m'envoies une balle, je tape dedans, et puis voilà, c'est terminé, quoi. Un enfant peut jouer des heures et des heures avec un ballon. Nous, je sais pas comment c'est en France, mais nous, en France, la fête, la célébration, le 14 juillet, c'est vraiment la grosse fête en France, le gros feu d'artifice. Et là, si vous allez dans les rues, les gens, quand dans la ville, ils font le feu d'artifice, vous allez à Bordeaux, le feu d'artifice, s'il dure pas 25 minutes, avec un final de dingue où t'as des milliers de feux d'artifice en même temps, le ciel est éclairé, derrière la grosse musique, tous les gens repartent en disant, s'il n'y a pas ça, c'est nul. Alors qu'un enfant, un pétard, il est merveillé, waouh! Vous comprenez? C'est ça un enfant. Il a cette capacité de toujours s'émerveiller. Puis un jour, l'enfant devient un ado. Et les choses se gâtent. Les choses se gâtent d'un seul coup. Le « Wouah, c'est génial !» laisse place à « Ouais, bof !» Et vous savez quoi? Il y en a, ils sortent jamais de l'adolescence. Ils ont 80 ans. « Ouais, bof !» Comprenez-vous? Écoutez bien. Paul a écrit à une église et il lui a dit, vous courriez si bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Vous courriez si bien. Vous étiez dans la joie, vous étiez dans l'enthousiasme, vous veniez à l'église, tout était beau, tout était magnifique. Oh, les frères et sœurs qui gardent mes enfants, merci, c'est gratuit en plus. Oh, merci, c'est juste incroyable. Des gens ont fait le ménage, mais c'est magnifique. Moi, je croyais que ça se faisait. Non, il y a des gens qui viennent. Ah ouais, quand même. Et puis les gens, et puis la louange, tout était. Souvenez-vous les premières fois que vous avez donné votre vie à Jésus, quand vous êtes rentré dans l'église, tout était beau, tout était magnifique, tout était merveilleux. Et avec le temps, ce qui vous émerveille au début, aujourd'hui est devenu complètement banal. C'est tellement normal qu'on nous fasse ces choses-là. J'aimerais vous dire, et j'aimerais nous dire à toutes les églises de la terre, restons toujours dans l'émerveillement. Quand vous allez chercher vos enfants, merci d'avoir gardé mes enfants. Quand vous voyez des gens qui font le ménage, merci de faire le ménage. Quand vous voyez des gens qui viennent répéter, merci ce matin pour la louange. Merci d'exister. Merci pour ce que vous faites. Merci pour les grâces que vous nous donnez. Restez dans l'émerveillement. Parce que ceux qui restent dans l'émerveillement apprennent à rester surpris et voient les surprises de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué que des gens, quand vous discutez avec eux, c'est juste fou la capacité qu'ils ont de toujours voir Dieu de partout. Puis je parle pas de mysticisme bizarre là, mais ils arrivent à percevoir, waouh, Dieu agit là dans ma vie, c'est incroyable. Il y en a, ils voient tous les jours, ils peuvent vous donner un témoignage de ce que Dieu a fait. Et il y en a, vous discutez avec eux, les seuls témoignages qu'ils peuvent vous donner, ils sont inscrits sur la page de garde de leur Bible, baptisés, j'ai donné ma vie à Jésus le temps, j'ai été baptisé d'eau le temps, j'ai été baptisé du Saint-Esprit le temps. Et après, pendant 20 ans, plus rien. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de vous surprendre encore aujourd'hui? Jésus crée la surprise. Jésus ne cessait de créer. Dans les évangiles, Jésus ne cesse de créer la surprise. La Bible nous dit, à un moment donné, il arrive devant la foule, et la Bible dit, et les gens furent surpris de le voir. Je ne sais pas comment il a fait son entrée. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment il a fait, mais la Bible nous dit, ils l'ont vu, ils ont été surpris. La Bible nous dit que parfois, lorsqu'il guérissait des gens, la Bible dit que les gens, lorsqu'ils repartaient, ils disaient, nous sommes dans l'étonnement de ce que nous avons entendu. Parfois, quand il y avait des guérisons, les gens repartaient en disant, ce que nous avons vu aujourd'hui est paradoxal. C'est comme, il y a quelque chose qui vient nous brasser, comprenez-vous? À un moment donné, Jésus, c'est quand même ça super surprenant, à un moment donné, Jésus voit un aveugle, et vous savez ce qu'il fait? Il prend de la terre, il crache dedans, il fait une petite boue et il colle ça sur le visage du gars. Vous trouvez pas ça surprenant? Si vous trouvez pas ça surprenant, venez avec moi à la fin de la réunion, je vais prendre de la terre, je vais cracher dessus, je vais vous coller ça dans les yeux. Vous allez voir si c'est pas surprenant. Jésus ne cessait de créer la surprise. Notre Dieu est un Dieu de surprise. Est-ce que tu es prêt à te laisser surprendre? Est-ce que tu crois que ce Dieu, croyez-vous que celui qui dit, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe, croyez-vous que ce Dieu-là soit, si tu peux mettre l'autre diapo s'il te plaît? Car il dit et la chose arrive, il ordonne, elle existe, croyez-vous que ce Dieu-là soit capable de vous surprendre? Croyez-vous? Et maintenant, ce que j'aimerais vraiment vous interpeller, j'espère que vous le comprenez, pour être surpris par Dieu, il faut sortir de nos sentiers. Et dire, Seigneur, je veux te laisser libre accès à ce que tu viennes me surprendre au-delà des schémas que je peux avoir. Moi, il y a une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est l'histoire de Élie. Et il y a plusieurs Élie, mais Élie le prophète, celui qui à un moment donné va confronter Jézabel et Akab. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, parce que il va leur dire, il va plus y avoir de pluie, et puis etc., ça va être la famine, ça va être compliqué. Et là, il se retrouve auprès d'un torrent. Le torrent de Kérit. Et là, il se retrouve là pendant un certain temps. Il y a de l'eau. Il peut s'abreuver par les eaux du torrent. L'eau est claire, limpide, fraîche. Waouh, c'est génial et tout. Et là, il y a un truc incroyable. Tous les jours, ça c'est super surprenant. Tous les jours, il y a des oiseaux qui viennent lui amener un beefsteak, un mac divin. C'est surprenant. Mais encore plus surprenant, c'est l'oiseau utilisé. Vous savez que c'est le corbeau parce que vous connaissez la Bible. Moi, je suis persuadé, écoutez bien, je suis persuadé, parce que le corbeau, c'est surprenant quand même, c'est un charognard, c'est un oiseau de mauvaise augure. Moi, je suis persuadé que si ça n'avait pas été écrit le corbeau, et qu'on aurait dit juste oiseau, et qu'on aurait posé la question aux chrétiens charismatiques pentecôtistes que nous sommes, à ton avis, quel est l'oiseau que Dieu a utilisé? Et tout le monde aurait dit, la colombe. Non. Dieu a utilisé un oiseau de mauvaise augure. Dieu a utilisé un charognard. Comprenez-vous? C'est ça, être surpris par Dieu. Nos schémas de pensée, Dieu les fait éclater. Et Dieu utilise qui il veut pour vous bénir. Est-ce que vous le croyez ça? Qui il veut? Il peut utiliser un chrétien, il peut utiliser un musulman, un athée, il peut utiliser un bouddhiste. Dieu utilise qui il veut pour vous bénir. Moi, je crois tout mon cœur. Un jour... J'ai lu cette histoire qui m'a fait rire, je vous la partage. Un jour, il y a une dame qui est chrétienne et qui aime bien exprimer sa foi. Et là, elle a une voisine de palier qui, elle, est athée. Et tous les jours, la chrétienne, pour embêter sa voisine de palier, à chaque fois qu'elle la croise, elle dit « Gloire à Dieu !» Et à chaque fois, sa voisine lui dit « Dieu n'existe pas !» Et tous les jours, elle se croise « Gloire à Dieu !»« Dieu n'existe pas !» Et puis un jour, la chrétienne... Elle passe par un temps difficile et elle est sur son balcon en train de prier. Elle dit, Seigneur, tu vois, avec ma petite fille, on est là et on n'a plus de rien dans le frigo, on n'a plus à manger, Seigneur, viens et pourvois nos besoins. Et là, ce qu'elle ne sait pas, c'est que la dame athée est dans son balcon juste à côté, elle l'entend. Et là, quand elle l'entend, elle a beau être athée, elle a quand même un cœur. Donc elle veut aider cette dame. Donc ce qu'elle fait, sans rien dire, elle va à l'épicerie du coin et elle achète une corbeille avec plein de nourriture. Et là, elle prend ça, et vu qu'elles sont un peu en froid, elle n'ose pas lui apporter directement. Alors elle pose ça sur le palier de la porte. Et elle part. Et là, il y a la chrétienne, lorsqu'elle ouvre la porte, « Gloire à Dieu !»« T'es incroyable, Seigneur, gloire à Dieu !» Et c'est vrai, gloire à Dieu. Et là, toute contente, la chrétienne, elle remplit son frigo, c'est génial, elle mange. Et quelques instants plus tard, elle descend. Et en descendant, elle croise sa voisine. Et alors là, la chrétienne, elle est gonflée à bloc. Hein. Là, elle dit, gloire à Dieu. Et l'autre, elle lui dit, ah, Dieu n'existe pas. Elle dit, ah, si, il existe, j'ai un témoignage à vous dire. Elle dit, bah, sachez que j'ai prié ce matin parce qu'on n'avait rien dans le frigo. On n'avait rien dans le frigo et Dieu nous a amené une corbeille pleine d'aliments sur le palier de l'autre porte. Et là, l'autre, là ça la pique, hein. Ça vient la chercher. Elle dit non, là je peux pas laisser ça. Et elle dit mais Dieu, elle n'a rien à voir dans cette histoire. C'est moi, je vous ai entendu prier ce matin et c'est moi qui ai acheté de la nourriture et c'est moi qui vous ai amené ça sur le pas de votre porte. Et là, la chrétienne, elle la regarde et d'un seul coup, elle lève les yeux au ciel, elle fait waouh, gloire à Dieu, Seigneur, t'es trop fort. Non seulement tu m'as nourri, mais t'as fait en sorte que ça soit Satan qui paye. N'imitez jamais cette dame. Hein. Je pense pas qu'elle était championne dans l'évangélisation, la dame. Là. Mais mon point est le suivant. Dieu utilise qui il veut pour vous bénir. Est-ce que vous le croyez? Regarde ton voisin et dis-lui, il utilise qui il veut. Il utilise qui il veut. Crois-le, il utilise qui il veut. Dieu est Dieu. Et il fait ce qui lui plaît. Est-ce que vous le croyez, ça? Alors, je veux être capable que Dieu, je crois que Dieu est capable de me surprendre. Mais pour cela, je dois garder un cœur d'enfant. Parce que parfois, Dieu veut faire des choses, mais on n'est pas capable de les voir. On est tellement blasé et fermé. Gardons un cœur ouvert, gardons un cœur d'enfant. Et je crois que Dieu va venir se manifester. Et j'aimerais juste finir avec cette simple pensée. On doit comprendre ceci. Comprenez ceci. Parfois, Dieu va vous donner la solution que vous aviez envisagée à votre problème. Mais parfois, pas. Parce qu'il est le Dieu de la solution, ça c'est une certitude, et il va apporter une solution. Et peut-être que la solution que vous aviez envisagée était la bonne, celle qu'il voulait faire. Mais parfois, il avait une autre solution. Et parfois, on n'est pas capable, écoutez bien, on n'est pas capable de comprendre la solution de Dieu parce qu'on est tellement braqué sur la solution que nous on veut, que lorsque Dieu ouvre d'autres portes, on ne voit pas les autres portes que Dieu est en train d'ouvrir, on a juste les yeux fixés sur la porte qui est fermée. Comprenez-vous? Alors que Dieu ouvre une autre porte, nous on regarde que celle qui est fermée. J'aimerais que vous puissiez comprendre, parfois Dieu va vous donner la solution que vous aviez envisagée, ou parfois c'en est une autre. Mais on doit comprendre cette vérité spirituelle, le Seigneur, quoi qu'il en soit, a toujours une solution. Toujours une solution, parce qu'il est le Dieu de la solution. Regardez ce passage, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire l'apôtre Jean, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple la prit chez lui. Amen. Je demande au pianiste si tu peux revenir, s'il te plaît. J'aimerais juste que vous puissiez comprendre cela. Il y a un problème. Il y a une maman, et je pense que vous pouvez tous le comprendre, il y a une maman qui voit son fils en train de mourir sur le bois de la croix. Même si Marie connaissait la réalité de l'identité de Jésus, on peut tous s'accorder ici, toutes celles qui sont mamans, et même ceux qui ne sont pas mamans, je pense que c'est tellement facile à comprendre, on peut tous s'accorder à dire que ça ne devait pas être réjouissant pour le cœur d'une maman de voir son fils avec le dos complètement déchiré par la flagellation, avec une épine, une couronne d'épines plantée sur la tête, des clous aux mains et des clous aux pieds. On peut tous comprendre qu'elle est dans la souffrance. Et je pense que si à ce moment-là, on avait demandé à Marie, « Marie, c'est quoi la solution que tu veux ?» Je pense que Marie aurait dit, « Ben, faites-le redescendre de là. Je ne veux pas perdre mon enfant. Je ne veux pas perdre mon fils. Je ne veux pas le perdre. C'est ça ma solution. C'est ça que je veux. » Si on avait demandé à Jean, le disciple que Jésus aimait, qui est un ado à ce moment-là, nous souvent, on pense que Jean, c'est tout de suite un vieux monsieur. En fait, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années plus tard que sur l'île de Patmos, où c'est un vieux monsieur avec la barbe blanche et toutes ces choses-là. Là, les historiens nous disent, les commentateurs bibliques nous disent que c'est un ado. Le gars, il a 19, 18, 19 ans, 20 ans. Et comme n'importe quel ado, il y a une soif d'héroïsme. Et Jésus, c'est le héros. C'est mon héros, Jésus. C'est le chef de ma bande. C'est mon modèle. C'est mon exemple. Jean, qu'est-ce que tu veux? Faites-le descendre de là, je ne veux pas le perdre. J'ai tellement d'espoir, j'ai tellement placé d'espoir en lui, je ne veux pas le perdre. Vous comprenez, certainement, c'était leur solution à eux. Sauf que ce n'était pas la solution de Dieu. La solution de Dieu, c'était que Jésus mort sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour que nous puissions tous être sauvés et qu'aujourd'hui, à Oron, en 2017, nous puissions célébrer celui qui a changé nos vies. Mais Dieu avait quand même une solution. Jésus voit cette mère qui est dans la souffrance parce qu'elle perd un fils. Et elle va dire à cette maman, en montrant Jean, ce jeune homme, et il va dire à cette maman, voici ton fils. Tu pleures aujourd'hui parce que tu viens de perdre un fils. Ta solution aurait peut-être été que je reste là, mais je dois partir. Mais regarde, j'ai une autre solution pour toi. Je te donne un autre fils. Il regarde Jean. Qui de mieux qu'une maman peut consoler le cœur de quelqu'un qui souffre, d'un jeune homme ou d'une jeune fille qui souffre? Regardez la sollicitude de Jésus, la grâce de Jésus. Jésus va donner à ce jeune homme qui souffre une maman pour prendre soin de lui dans sa souffrance, afin que les deux puissent s'encourager, s'exhorter à aller de l'avant. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, il est fort probable, 80% du temps, Jésus nous donne la solution que nous avions envisagée. Mais il arrive parfois que Jésus a une autre solution. Et j'aimerais vous dire, faites-lui confiance. Nous avons les yeux collés sur la feuille de nos vies, mais faites-lui confiance, parce qu'il connaît la fin de l'histoire. Est-ce que vous le croyez? J'aimerais finir avec cette vérité emportée. Aujourd'hui, vous pouvez vivre une expérience extraordinaire. Dieu peut vous confondre. Il peut métamorphoser votre journée et la rendre fantastique. Si vous désirez avoir ce cœur ouvert et de dire comme un enfant, je veux courir dans tes bras. Viens me surprendre aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur va le faire. Je crois que le Seigneur peut vous pardonner. Je crois qu'il peut vous guérir. Je crois qu'il peut vous restaurer. Je crois qu'il peut vous propulser et vous donner une onction nouvelle alors que vous étiez venu en train de chercher vos ânesses. Et vous donner une onction nouvelle pour aller de l'avant. Est-ce que vous le croyez ça? Est-ce qu'on peut se lever un instant à nos places? J'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, notre Roi, je te prie, Seigneur mon Dieu, ce matin, pour toutes les personnes qui sont là. Tu connais, Seigneur mon Dieu, les joies et les peines. Tu connais, Seigneur mon Dieu, les difficultés. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que ce matin, tu viennes surprendre. Dans ce matin et dans les jours qui vont suivre, je prie, Seigneur mon Dieu, avant la fin de cette année, je prie pour que tu viennes surprendre des gens. Alors qu'ils prient, peut-être depuis X temps, et qu'ils ont perdu toute espérance, je prie, Seigneur mon Dieu, que tu viennes les surprendre, qu'ils apprennent une nouvelle qui vient les confondre là où ils sont, Seigneur mon Dieu. Que, alors que peut-être ils prient depuis des années et des années, comme, Seigneur mon Dieu, lorsque Pierre était derrière la porte et qu'il frappait, je prie, Seigneur mon Dieu, que des gens soient surpris, que des gens disent, mais ça fait tellement longtemps que je priais pour ça, et j'avais... c'est fou cette histoire. Et qu'on puisse louer, célébrer et adorer notre Dieu. Je prie que ta grâce se manifeste. Je prie pour que des vies soient changées. J'aimerais faire un appel ce matin, plusieurs appels ce matin. J'aimerais faire un appel premièrement pour ceux qui sont venus dans ce lieu peut-être pour là ou les premières fois. Et votre vie jusqu'à aujourd'hui est une vie qui n'avait pas de sens, ou peut-être une vie de souffrance, ou une vie de péché. J'aimerais te dire, Seigneur, j'aimerais te dire que le Seigneur ce matin désire te donner une nouvelle destinée, faire de toi une nouvelle personne, te surprendre, te faire repartir à zéro, que les choses anciennes passent et te faire le cadeau d'une vie nouvelle. Si c'est ton désir, ce matin, de donner ce cœur, ton cœur, à Jésus et de voir ta vie être métamorphosée. Dans quelques instants, pas tout de suite, mais dans quelques instants, je t'inviterai à lever ta main. Puis j'aimerais faire une prière également. J'aimerais prier pour tous les chrétiens de l'Église qui attendent désespérément, qui ont besoin d'une solution. J'aimerais prier pour vous ce matin, afin que le Seigneur vienne et agisse avec puissance. Peut-être c'est la solution que vous aviez envisagée que Dieu va vous donner, peut-être ce sera une autre solution. Mais le Seigneur va agir, je le crois, parce qu'il est le Dieu de la solution. Et son désir, son cœur, n'est pas que vous restiez malheureux toute votre vie. Alors si ce matin tu as besoin de la prière, si ce matin tu veux donner ton cœur au Seigneur, si ce matin tu as besoin de la grâce de Dieu, juste là où tu es, je t'invite à lever la main. J'aimerais prier pour toi. Des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. Encore d'autres mains, encore d'autres mains. Alléluia, encore d'autres mains. Alors regardez ce qu'on va faire. Tous ceux qui veulent donner leur cœur au Seigneur, ou tous ceux qui ont une peine de cœur, quelque chose qui psychologiquement les fait souffrir, je vous invite à poser votre main sur votre cœur. Et j'aimerais inviter tous les autres qui peut-être ont répondu parce que vous avez besoin d'une guérison physique. Posez votre main à l'endroit de votre souffrance physique. Si c'est au genou, posez-la sur le genou. Si c'est à la tête, posez-la sur la tête. Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes les personnes qui sont là ce matin. Et je prie pour tous ceux qui ont besoin de ta grâce ce matin, qui ont besoin de ta guérison, qui ont besoin de ta restauration, qui ont besoin de ton secours ce matin. Je prie, mon Dieu et mon roi, que ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils vivent un momentum ce matin, que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles, qu'ils soient pardonnés de leurs péchés et qu'ils rentrent dans les projets que tu as prévus pour eux. Je prie pour tous les malades qui sont dans ce lieu. Je prie pour tous ceux qui souffrent parce qu'ils attendent une promesse ou une bénédiction. Je prie que ta grâce se manifeste, Seigneur, que tes promesses sont oui et amen en toi. Tes promesses, Seigneur mon Dieu, sont pas oui et amen en moi, dans mes capacités, dans mon mérite, dans ce que je mérite ou pas. Mais les promesses sont oui et amen en toi, en ce que tu as fait à la croix. Alors je prie, Seigneur mon Dieu, ce matin, que ta grâce se manifeste, que les malades soient guéris, que les captifs soient délivrés et que les promesses soient accomplies. C'est dans le nom précieux de Jésus Père que je t'ai prié et que tous ceux qui croient que Dieu est capable de les surprendre disent Amen et Amen et applaudissent et acclament le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia Seigneur Jésus. Que le Seigneur soit béni.